Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ali Soumaré, conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Ali Soumaré, première question. Le Parti socialiste s'est réuni ce week-end pour discuter de sa refondation. Il y aura un congrès au printemps pour élire une nouvelle direction. Pour l'instant, seul Luc Carvounas s'est déclaré candidat pour le poste de premier secrétaire. Après la défaite du PS à l'élection présidentielle et aux législatives, que doit faire votre parti pour tenter de renaître de ses cendres ?
Écoutez, oui, on sort d'un week-end qui est un peu le point de départ là, de ce qu'on a appelé la refondation. Enfin, le point de départ, en réalité, le travail de refondation et les ateliers ont commencé. Et d'ailleurs, c'était ce week-end la restitution de... De mémoire, quasiment plus de 300 ateliers de la refondation qui ont eu lieu un peu partout en France, donc dans un contexte où on dit que le Parti socialiste est complètement mort. Alors certes, on revient de loin, mais il y a encore beaucoup de militants qui y croient et qui ont, en tout cas, donné beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie à faire en sorte que ce travail de refondation, en tout cas ces premiers éléments, puissent ressortir. Donc oui, il y a du boulot. Et je crois, si je devais résumer, moi, en tout cas, l'enjeu pour le Parti socialiste, finalement, alors, il y a un débat là-dessus, mais pour le coup, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Je pense que la clé, en tout cas, de l'analyse sur notre crise politique, elle tient sur une question, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles on a perdu. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui de Français sont complètement détournés de nous. Quand on arrivera à mettre des mots sur les raisons de notre échec, et sur, à un moment donné, les erreurs qu'on a pu faire, je pense qu'on aura fait au moins 70%, si ce n'est 80% du travail, parce que le reste relevera plus d'en tenir compte et de construire des propositions. Mais là, aujourd'hui, il y a un gros travail encore à faire et qu'on doit faire, qui consiste à comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières années.
Parce qu'effectivement, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, vous aviez les villes, les régions, les départements, le Sénat, l'Assemblée nationale, vous aviez tout. Le Parti socialiste avait tout.
Même si on avait tout, même si moi je faisais partie de ceux, et c'est pareil, c'est la sensibilité qui est la mienne, qui disait déjà à l'époque en 2012, juste après la victoire de François Hollande, que c'était pas vraiment une victoire, que finalement les Français avaient sanctionné Nicolas Sarkozy, et que du coup on apparaissait comme étant l'alternative à Nicolas Sarkozy, mais qui c'était plus un vote, c'était un vote pour mettre dehors Nicolas Sarkozy qu'un vote d'adhésion. À l'époque déjà, moi je le disais, on me disait non quand même, il faut pas dire ça. Alors j'étais pas le seul à le dire. Et ben oui, la réalité c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, et je veux pas faire rabat-joie ou un mauvais joueur, hein, mais enfin on peut dire très tranquillement que au-delà du feeling qui a été celui d'Emmanuel Macron, la réalité c'est qu'aujourd'hui les Français ont d'abord sanctionner le vieux monde, ce qu'ils appellent le vieux monde. Et donc, celui qui apparaissait une fois que Fillon était complètement empêtré dans ses affaires, et parce que moi je n'ai jamais cru au fait, même s'il y a une poussée du Front National, je ne crois pas qu'il y ait une majorité de gens qui veuillent aujourd'hui que le Front National soit en responsabilité. Celui qui apparaissait comme étant le plus crédible aujourd'hui pour, en tout cas, mettre dehors le vieux monde, c'était Emmanuel Macron.
Comment vous expliquez le faible score de Benoît Hamon ? Benoît Hamon qui est sorti du Parti Socialiste, comme Manuel Valls d'ailleurs, deux des candidats. On peut aussi parler de François de Rugy qui était candidat à la primaire de la gauche et qui aujourd'hui soutient Emmanuel Macron et est président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ce score si faible pour Benoît Hamon qui incarnait finalement la gauche militante ?
Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on traversait déjà une crise politique extrêmement importante et de défiance vis-à-vis du Parti socialiste. Et Benoît Hamon, il peut, avec toute l'amitié que je lui porte, il a pour lui d'avoir été au gouvernement et d'avoir porté cet héritage socialiste. Donc il ne pouvait pas, quand bien même il aurait été frondeur, se défaire complètement du bilan ou en tout cas de l'image qu'on pouvait avoir. Donc ça, pour moi, c'est un premier élément d'explication. Le deuxième élément d'explication, c'est que finalement, on a perdu une grosse partie de notre électorat, soit parce qu'ils sont partis chez Mélenchon, parce qu'ils avaient un besoin d'aller beaucoup plus à gauche, et une grosse partie de notre électorat, et de nos cadres d'ailleurs qui sont partis chez En Marche parce que plus légitimistes, plus d'une tendance centriste, donc ils sont partis de ce côté-là. Donc quand d'un côté une partie de notre électorat va du côté de Mélenchon, notamment dans les quartiers, une autre partie de notre électorat va chez Emmanuel Macron, vous ajoutez à ça la crise de défiance qu'il y a vis-à-vis du Parti socialiste, et enfin à mon avis Le dernier élément, c'est que même si, sur le fond, c'était intéressant ce que Benoît Hamon disait, la réalité, je crois qu'une grosse partie des Français, dans le contexte de crise, dans le contexte de difficultés, bah, les propositions de Benoît Hamon, à mon avis, notamment sur les robots, sur un certain nombre de questions, apparaissent comme un peu trop idéologiques et pas du tout, à un moment donné, en adéquation avec, avec la réalité aujourd'hui de chômage, difficulté du quotidien de faire les fins de mois aujourd'hui. Donc, moi, je l'ai entendu, hein, et plein de gens dire c'est intéressant ce que Hamon raconte, mais en fait, ça répond pas à nos problèmes du quotidien.
Adi Soumaré, beaucoup de vos amis ont carrément arrêté la politique après la défaite du Parti Socialiste, notamment les anciens députés. Vous, qu'est-ce qui vous fait tenir? Pourquoi vous croyez toujours en la politique et pourquoi vous restez au Parti Socialiste alors que effectivement vous êtes encore rejeté par les Français au moment où on parle?
Ah, pareil, il n'y a jamais une raison. Pourquoi d'abord, je reste au Parti Socialiste? Parce que moi, je me sens socialiste et je pense que l'idéal socialiste encore, je parle bien de l'idéal socialiste aujourd'hui, pour moi, c'est ce qui correspond le mieux à la manière dont je vois aujourd'hui l'engagement politique. Et les premiers pas de Macron me confortent dans le fait qu'il est plus d'une tendance de droite que d'une vraie tendance sociale-démocrate. Pourquoi je continue à être engagé? Parce que moi, je suis rentré au Parti Socialiste. Mon engagement, il date de moins d'une vingtaine d'années, où j'étais très engagé sur les questions relatives au quartier populaire.
Je suis originaire de
Villiers-le-Bel, où j'étais porte-parole des familles, mais j'étais déjà engagé sur le terrain politique. Et moi, je peux le dire, même si je sais, quand je discute avec des amis, c'est jamais évident ce débat-là. Moi, je crois encore en la force de la politique, ou en tout cas en l'engagement politique. Et même si ça avance doucement, il y a quand même des avancées. Et je le vois aujourd'hui, moi, à travers mes engagements, à travers un certain nombre de choses. Toutes les avancées aujourd'hui, de manière générale, d'ailleurs, elles sont beaucoup liées à l'engagement politique de manière générale. Donc, je crois encore aux politiques. De manière générale, même si on est dans un contexte où il convient de complètement redéfinir les choses et le rapport aux politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de défiance vis-à-vis des politiques.
Alors, Adi Soumaré, vous l'avez dit, La République En Marche s'est fait élire en partie grâce au déçu de François Hollande. Vous considérez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron mène une politique plutôt de droite ou de centre-droit. Finalement, est-ce que la politique qu'il mène peut donner des ailes au Parti Socialiste dans quelques années? C'est-à-dire que vous pouvez être à nouveau une force d'alternance?
Oui, à plusieurs conditions. Il n'y a toujours jamais aucune... La première des conditions, elle réside dans ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on soit en capacité de faire un vrai travail d'introspection, notamment dans les raisons, dans l'analyse de notre défaite. Ça, je pense que c'est important, et pas juste de dire ben on n'a rien fait de bien ou on a tout fait bien, non, mais qu'on ait vraiment les mots justes par rapport aux raisons de notre défaite et aux raisons du décrochement aujourd'hui d'une grosse partie de notre électorat, et que dans les faits ça se traduise par des actions. Alors aujourd'hui je peux pas vous dire exactement tout ce qu'il faut faire, mais il faut qu'on puisse se donner le temps et l'énergie de pouvoir avoir des actions, en tout cas nous challenger sur le fait qu'aujourd'hui il faille pouvoir le faire. D'autant, et vous l'avez dit dans votre question, qu'il y a un espace aujourd'hui, parce que là où certains disaient finalement Macron c'est un socialiste, c'est un socialiste qui s'ignore un peu et autre et tout, il mène pas du tout une politique socialiste.
Alors, et à côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Certains de vos amis socialistes disent que ça n'est pas la gauche de gouvernement. Mais pour autant, est-ce que vous ne trouvez pas que la France Insoumise travaille? Ils produisent énormément de textes. On sent véritablement qu'il y a une force d'engouement. Il y a des jeunes, ils s'adressent, Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux jeunes à travers YouTube, alors que le Parti Socialiste, on a l'impression qu'il est replié sur lui-même, alors que la France Insoumise s'adresse à tout le monde, va dans les quartiers.
Oui, alors va dans les quartiers, alors, toute proportion gardée, mais oui, il y a un travail qui est fait, qui est indéniable. Je pense que la différence entre aujourd'hui Mélenchon et nous, elle réside dans ce que je viens de dire là, c'est que dans la France Insoumise aujourd'hui, ils ont un leader. Et moi, j'ai jamais été fan de la personnalisation, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sous la 5e République aujourd'hui, il y a besoin d'un chef. Et voilà, et eux, ils ont un chef. Voilà. Et donc, du coup, c'est plus facile de faire imprimer un certain nombre de messages. Nous, on a eu, ça fait plus de 2 mois là, qu'on travaille sur les ateliers de la refondation. On a eu un conseil national extraordinaire où on a pu voir à un moment donné des représentants un peu partout en France qui sont venus. Bon, au-delà du fait qu'effectivement c'était compliqué d'émerger dans le contexte de recueillement vis-à-vis de Johnny Hallyday, très peu de retours médiatiques.
C'est bien pour ça que je vous ai invité pour qu'on en parle aujourd'hui.
C'est ça, tout à fait. Et donc on voit bien ce décalage qui existe. Et en même temps, je pense que c'est plus facile pour vous, les médias aujourd'hui, d'avoir une organisation, un chef et un message, qu'aujourd'hui, un parti qui aujourd'hui... Alors certes, ça a été notre force à un moment, c'est-à-dire cette culture du débat, cette culture même de la contradiction. Moi, je le revendique. Ce qui a fait et ce qui fait la force du partialiste, c'est aussi d'avoir en son sein des sensibilités différentes, des manières d'appréhender les questions sociales de manière différente et d'arriver à nous rassembler sur l'essentiel. Et ben là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident parce que les Français ont besoin aujourd'hui d'un message, d'un visage, et c'est ça qu'on doit pouvoir construire.
Alors,
aujourd'hui,
il n'y a plus de leader au Parti Socialiste. Mmh. Vous avez été proche à un moment donné de Manuel Valls. Mmh. Manuel Valls, qui a quitté le Parti Socialiste. D'abord, quel regard vous portez sur son cheminement aujourd'hui ?
C'est dommage parce que j'ai été, et je l'assume complètement, j'ai été proche de Manuel Valls, et même été son porte-parole pendant la primaire de 2011 sur au moins 3 idées simples. La première, c'était qu'on était dans un contexte déjà, parce que moi je le dis souvent, c'est la première fois que je viens à Radio Orient, mais je le disais souvent avant et je continuerai de le dire, qu'on vivait une crise politique et qu'il fallait dire la vérité aux Français, et que nous à gauche, on était souvent sur faire rêver les Français plutôt que dire les choses telles qu'elles étaient. Donc ça, c'était le premier élément. Il y avait un deuxième sujet, moi, qui m'intéressait chez Manuel Valls, c'était finalement tout le travail qu'il pouvait faire, tout le message qu'il avait sur les questions de sécurité, sur le fait qu'à un moment donné, la gauche devait s'approprier les questions de sécurité, et ce qui participait de notre décrochement vis-à-vis, y compris de l'électorat populaire, c'était qu'on était dogmatique sur un certain nombre de questions, plutôt que de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que les questions de sécurité, elles se posent plus dans les quartiers populaires qu'aujourd'hui dans des quartiers dits favorisés, où il y a quasiment très peu de phénomènes de délinquance. Et puis, il y avait aussi un troisième sujet sur la laïcité, même si aujourd'hui, très clairement, avec toute l'amitié que je lui porte, je pense que il a complètement transformé le sujet de la laïcité. Moi, la laïcité telle qu'on pouvait le concevoir avec Manuel Valls, il y a encore quelques années, où la question c'était la séparation complète des religions et de l'État, et le fait de mettre cette digue, parce qu'on commençait à sentir dans nos territoires difficiles, mais pas que cette digue commençait à s'effriter. Moi, j'étais complètement d'accord. Mais transformer ce combat-là aujourd'hui comme étant un peu, entre guillemets, une obsession vis-à-vis notamment des musulmans, là, pour le coup, j'ai décroché parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne manière d'appréhender cette question-là, même si elle est beaucoup plus subtile que ça pour lui.
Mais comment vous expliquez, je dirais, cette façon de parler d'identité finalement à longueur d'interview? Comment vous l'expliquez, vous, qu'il avait approché, qu'il avait connu?
J'ai pas l'habitude d'être langue de bois, donc c'est pas aujourd'hui que je vais l'être. Je pense que moi, en termes d'anecdote, une fois Manuel Valls était premier ministre, et donc il recevait souvent le samedi matin, et à un moment il reçoit, alors dire c'est un peu caricatural, mais presque, il reçoit Caroline Fourresque à 9h30, et il me recevait à 10h30, et je lui dis, mais c'est incroyable quoi, t'arrives à recevoir Caroline Fourresque à 9h30, qui était sur les tests complètement opposés aux miennes, et 10h30 à me recevoir et à me poser des questions sur la manière dont je vois les choses. Et il me disait c'est ce qui fait ma force. Et là, là-dessus, j'étais assez d'accord avec lui. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, les Caroline Fourresque et d'autres ont gagné, ont réussi à prendre le pas sur Manuel Valls. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est victime, hein. Il est pas victime. Je pense qu'il
a
choisi.
Il a fait
des choix. Et aujourd'hui, les identitaires, notamment une partie de ce qu'on appelle les identitaires de gauche, ont gagné autour de Manuel Valls, et ils ont réussi à convaincre. Et Manuel Valls lui-même en est devenu même le porte-parole. Et moi, c'est ça le désaccord que j'ai eu avec Manuel Valls, et je continue d'avoir, c'est que à partir du moment où on est de gauche et qu'on met à un moment donné, qu'on sort des questions économiques et sociales dans l'analyse qu'on peut avoir des problèmes et qu'on rentre dans des questions identitaires, ça porte un nom et je peux pas y souscrire. Et c'est pas être dogmatique que de dire, c'est pas être dans le déni que de le dire, mais la porte d'entrée d'une analyse économique et sociale pour un homme politique de gauche, voilà, elle est économique et sociale et elle est pas identitaire.
Alors, sans transition, comme on dit, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé des propos d'Alain Finkielkraut, affirmant, je cite, que lors de l'hommage à Johnny Hallyday, le peuple des petits blancs était seul, les non-souchiens brillaient par leur absence. Fin de citation.
Pathétique, pathétique. Je crois que c'est la surenchère. Hein. C'est... Alors, moi, j'étais plus, et je l'avoue, et je vous l'avais dit, hein, hors antenne, que du coup, j'avais même pas suivi tellement on commence à être habitué à ces propos. Je suis plus étonné de voir qu'aujourd'hui, il peut tranquillement déverser sa haine sans qu'il soit condamné au sens des autorités politiques, sur le plan politique. Hein. Après, sur le plan judiciaire, c'est encore autre chose. Mais c'est devenu banal aujourd'hui de pouvoir se déverser comme ça et déverser sa haine. Alors, je pense c'est devenu un habitué et pour le coup, pour lui, ce qui est important, c'est de dire la plus grosse connerie qu'on puisse dire et continuer à déverser sa haine et d'avoir une analyse, pour le coup, identitaire en regardant à partir des images parce qu'il y aurait que des blancs, parce que c'est ça, en fait. Ça veut dire parce qu'il n'y a pas de noirs et d'arabes.
C'est un peu des propos de compte. C'est un peu étonnant aussi de la part d'un philosophe. C'est des propos qu'on peut tenir, en privé.
Ça fait longtemps qu'il est complètement, il se lâche complètement là-dedans. Alors je pense que c'est aussi sa manière d'exister, à mon avis. C'est aussi sa manière d'exister. Et là-dessus, ce qu'il faut pouvoir opposer, c'est effectivement tout sauf des analyses de comptoir. Et la France, elle est suffisamment. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu à travers le recueillement de Johnny Hallyday est suffisamment fort. Enfin, je veux dire, le recueillement de Johnny Hallyday, moi, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il a pu rassembler différentes couches populaires, que les gens de droite comme de gauche, tout le monde était rassemblé et tout le monde, à un moment donné, a quelque chose de Johnny en lui. Et c'est pas même... J'arrive jamais à prononcer son nom. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inconscient. Il y a quelque chose...
C'est pas un
philosophe de comptoir, parce qu'il a des fois dit des choses intéressantes.
Quand
mais là
littérature, c'est pas le même homme.
C'est pas le même homme. Mais là, pour le coup, là, dès qu'il s'agit de parler, et parce qu'il faut le dire très clairement, et moi je vais pas utiliser la langue de bois, quand il s'agit de parler des Noirs et des Arabes, là, pour le coup, il est au ras des pâquerettes.
Alors, que vous inspire l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains ? Le Parti Socialiste n'a pas de leader. Est-ce que la droite, aujourd'hui, a un leader ?
Oui, Laurent Wauquiez, je pense que je suis pas du tout ma tasse de thé, je le dis avec le sourire, même si le sourire ne se voit pas en antenne, parce que moi je pense que ça va être clair. Il y aurait rien eu de pire que d'avoir un leader de l'UMP qui est un peu timoré et autres et tout. Je pense que là, au moins, le débat aura le mérite de la clarté. Si aujourd'hui, on est en capacité, nous, au Parti Socialiste, pour revenir au Parti Socialiste, de se dire, bon ben voilà, nous, on est contre, effectivement, la manière dont Wauquiez porte les choses. On pense qu'il y a une ligne de crête entre Mélenchon et Emmanuel Macron et qu'on doit pouvoir la porter. Ben, je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde, mais ça, au moins, le mérite d'être clair. Et même si j'ai pas beaucoup été pour la personnalisation, force est de constater qu'aujourd'hui, sous la 5e République, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Français, ils attendent d'avoir des organisations, un message. Alors, bien sûr, ce qui fait notre force, c'est aussi au Parti Socialiste, et il faut continuer à avoir cette culture du débat et même de la contradiction. Mais une fois qu'on a tranché, une fois qu'on a voté, il faut pouvoir se ranger derrière un chef, derrière une ligne politique et la porter.
Donc, plus de frondeur à l'avenir.
Plus de frondeur, on aura toujours. Hein. C'est un peu dans l'ADN de la gauche, et dans l'ADN des socialistes. C'est nous au Parti Socialiste, et c'est pour ça qu'en fait c'est toujours compliqué de lire nos congrès ou nos échéances. Nous, on a un congrès qui repose sur deux pieds, qui repose à la fois sur la doctrine ou en tout cas le projet politique et qui peut être, qui est un peu déconnecté du choix. Du chef. Là où dans une organisation, c'est le chef et le projet qui en découle. On nous a même moqué à un moment donné, notamment sur la synthèse sous François Hollande. Mais en réalité, moi, je suis content d'appartenir à une organisation politique qui peut déconnecter tant que faire se peut les questions de personnes et les questions de projet, parce qu'il nous appartient aussi d'avoir d'abord un travail sur le projet. Même si je suis conscient qu'aujourd'hui, je le dis, risque de me répéter encore, que les Français attendent de nous aussi de choisir un chef.
Ali Soumaré, 100 000 adhérents des Républicains ont voté pour choisir leur nouveau président. Il y aura au minimum 100 000 adhérents du Parti Socialiste pour choisir une nouvelle direction.
Je l'espère. Il y en aura peut-être moins. Et s'il y en a moins, ça voudra dire qu'il faudra aussi en tenir compte. Alors, la différence quand même, c'est que nous, il n'y a pas de vote électronique. À la différence des Républicains, nous les gens, pour venir voter, ils doivent non seulement se mettre à jour de cotisation, mais en plus ils doivent se déplacer dans un bureau de vote physique. Voilà. Et c'est une contrainte, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, c'est un élément supplémentaire qui peut jouer sur la participation. Et enfin, je rajoute un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on revient de loin. On revient de loin, donc 100 000, je l'espère. Mais s'il y en a moins, ben voilà, faudra pas non plus se flageller, mais faudra aussi en tenir compte.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie d'Ali Soumaré, conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Alors parlons du conseil régional. Quel bilan faites-vous de l'action de Valérie Pécresse à la tête de la région ?
En toute objectivité, Valérie Pécresse a réussi une chose. Elle a réussi à imprimer, c'est-à-dire que là où nous on avait un Jean Paulichon à l'époque sur l'ancienne mandature qui a fait le choix de pas s'exposer sur le plan médiatique mais travailler sur le fond, elle a réussi à imprimer sur le plan médiatique. Ça, Valérie Pécresse, toutes les semaines, vous en buvez, vous en lisez, JDD, sur les différents médias, elle a réussi à imprimer, il y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui Valérie Pécresse n'était pas présidente de la région Île-de-France, et d'ailleurs qui, à la différence d'un Jean-Paul Huchon aujourd'hui, elle a une notoriété largement supérieure.
Elle fait un petit peu ce que Ségolène Royal avait réussi en Poitou-Charentes.
C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs, j'ai pas cette comparaison là, mais quand on regarde bien, c'est un peu ça. Elle imprime, elle est là. D'ailleurs, elle parle pas beaucoup de la région, mais elle est là quand même, et elle en parle un peu de temps en temps. Donc voilà, ça, elle a réussi à imprimer. Elle a réussi aussi, et c'est lié à sa campagne, elle a réussi à avoir un discours finalement, y compris que tout le monde peut entendre, y compris vis-à-vis de la Grande Couronne, puisqu'on a perdu une partie des raisons de notre échec, c'est qu'on n'a pas su avoir un vrai discours vis-à-vis des Grandes Couronnes, notamment sur les transports, sur un certain nombre de questions, et donc du coup, les gens avaient le sentiment d'être abandonnés, elle a réussi à faire. Par contre, en revanche, là où, à ma grande surprise, et je le dis sans être dogmatique, parce que je le regarde à l'aune des chiffres, et n'importe qui peut le regarder aujourd'hui, ça ne bosse pas beaucoup au sens où ça ne décaisse pas beaucoup. C'est-à-dire que même là, sur ses engagements de campagne, je parle sur ses engagements de campagne, sur le plan route, sur tout un tas de questions, je veux dire, ça, non seulement ça ne décaisse pas beaucoup, mais on a un Pass Navigo qui est en train d'augmenter de plus en plus, enfin le tarif unique du Pass Navigo qui est en train d'augmenter, on a des taux de décaissement aujourd'hui par commission qui sont largement inférieurs à ce qu'on pouvait faire ce fut un temps.
En parler plus précisément pour que l'on comprenne de quoi vous parlez.
Alors, un sujet, parce que moi je m'investis beaucoup sur les questions internationales, on est passé d'un budget quasiment d'un peu plus de 15 millions d'euros à un budget, alors c'est de la gymnastique comptable, hein, à un budget de moins de 5 millions d'euros de fonctionnement pour le secteur international, même s'il y a un effet levier et qu'il y a d'autres partenaires qui rentrent en ligne de compte. Et même dans ces 5 millions d'euros, on est sur des taux de dépenses qui sont à 80%, là où elle nous explique finalement qu'elle a quasiment dépensé. Donc elle baisse les budgets.
Elle fait des économies, ça va être moins d'impôts pour les franciliens.
Ben non, parce que la preuve en est, c'est que par exemple, le Pass Navigo, il continue d'augmenter. Donc on peut pas à la fois, justement, et vous avez raison de le poser comme ça, soit on dit à un moment donné, ben, c'est au bénéfice des franciliens, et à ce moment-là, ben, on doit le voir, mais c'est pas le cas. Non seulement on voit pas les baisses, mais en plus elle dépense moins. Moi, mon hypothèse, c'est qu'elle dépense moins parce qu'aujourd'hui, elle est prise entre ce qu'elle a dit pendant la campagne où elle a promis un certain nombre de choses et aujourd'hui le fait de vraiment travailler au bénéfice des franciliens plutôt que d'être à longueur de journée sur les plateaux télé.
Mais si elle augmente le prix du Pass Navigo, est-ce que ça n'est pas parce que la gauche qui avait voté la réduction du prix n'avait pas financé la mesure et avait laissé finalement le financement à l'exécutif suivant ?
Non, c'est pas vrai, parce que d'ailleurs nous on a mis quasiment plus de 3 ans à faire l'arbitrage sur cette question-là. Et je me rappelle même d'ailleurs qu'on avait un débat, nous, en notre sein, parce qu'il y avait des pour et des contre, en disant, est-ce qu'on met, pour la faire simple, hein, parce que les auditeurs doivent pouvoir comprendre ce qu'on raconte, est-ce qu'on investit plus sur la rénovation des transports ou est-ce qu'on agit sur le pouvoir d'achat des franciliens? Et ben on a fini par faire les deux, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois pouvoir investir et quasiment en fin de mandature, oui c'est vrai, de pouvoir faire le tarif unique. Mais moi, vous connaissez l'adage, hein, gouverner c'est choisir. Elle pouvait faire des choix, enfin d'autres choix. Je prends toujours sur le secteur international. Elle choisit aujourd'hui d'investir principalement ce qu'elle fait de manière des fois même un peu électoraliste vis-à-vis des chrétiens d'Orient ou vis-à-vis des minorités d'Orient. Donc elle est clairement dans le clientélisme. Et ben elle peut faire le choix à un moment donné de sortir de cette logique-là et dire on va faire des vraies politiques publiques ou alors on va permettre aux Franciliens de pouvoir payer moins de transport, de pouvoir payer moins telle ou telle taxe. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. On est sur de l'affichage médiatique. Sur des grandes résolutions sur le plan médiatique, mais dans le concret, c'est même pas idéologique. Pour moi, c'est même pas idéologique vis-à-vis de Valérie Pécresse.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur les chrétiens d'Orient et Valérie Pécresse ? Je n'ai pas bien compris.
Très clairement, elle est sur du clientélisme. C'est-à-dire que, et moi, j'ai pas de problème à ce qu'on ait un traitement vis-à-vis des minorités d'Orient et sur les chrétiens d'Orient, mais elle choisit très clairement vis-à-vis d'un électorat. En même temps, alors je peux vous donner, d'ailleurs c'était à Clichy, elle est en capacité d'aller à Clichy-sous-Bois sur les prières de rue, Clichy-la-Garenne sur les prières de rue en étant sur un discours hyper caricatural et en même temps en étant quasiment à chaque fois à financer tout ce qui concerne de près ou de loin les associations ou les minorités d'Orient parce que c'est clairement électoraliste. C'est pas, c'est-à-dire que mon problème c'est pas qu'elle le fasse. Mon problème, c'est qu'elle a choisi délibérément aujourd'hui de ne faire que ça, au détriment d'autres politiques publiques, parce qu'à un moment donné, elle est sur de l'affichage électoral.
À l'international, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la présidence de la région Île-de-France ?
Moi, à l'international, si j'étais président de la région Île-de-France, d'abord, je sortirais de la logique dans laquelle elle essaie de nous mettre, à savoir de faire des coopérations avec des États. Parce qu'aujourd'hui, et de nous appuyer sur les coopérations décentralisées. L'échelon pertinent pour une collectivité, c'est son partenaire, son équivalent, c'est les régions. Et donc, c'est de s'appuyer sur tout ce qu'on fait sur les coopérations décentralisées. Un, ça permet de mesurer ce qu'on fait. Deux, ça permet de palper, ce qu'on fait. Deux, c'est cohérent par rapport à l'échelon d'intervention dans lequel on est. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, quand on mobilise 100 000 euros sur une intervention d'urgence, sur un pays, une catastrophe naturelle, 100 000 euros, quand je prends par exemple à l'échelle, et d'ailleurs on l'a fait, j'étais aussi critique à un moment donné chez nous quand il y a eu les catastrophes naturelles à Haïti. Mais quand vous mettez 100 000 euros sur un fonds d'intervention d'urgence, à part nous faire plaisir et nous donner bonne conscience, quand vous avez des partenaires tels le PNUD et autres et tout qui vont verser des millions d'euros, nos 100 000 euros, non seulement ils ne sont pas palpables, ils ne sont pas mesurables, mais ils vont se perdre. Enfin, c'est rien par rapport à ce qui est fait. Par contre, vous dire à un moment donné, bon, eh ben nous, on va travailler avec une collectivité et on va voir comment à un moment donné, en termes de transfert de compétences, sur la formation professionnelle, puisqu'on a un vrai savoir-faire aujourd'hui en Île-de-France sur ces questions-là, en matière de lycée, en matière d'éducation, comment on peut construire des partenariats qui ne sont pas que quantifiables sur le plan financier. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de Valérie Pécresse, son exécutif, sur l'international, de mettre la francophonie... La francophonie en priorité, ben, je dis chiche, mais chiche, c'est quoi l'outil ? Est-ce que c'est d'aller en prendre rendez-vous comme ils sont en train de le faire avec les ambassadeurs, qui sont souvent d'ailleurs sur des intérêts d'État, et pas surtout sur les intérêts des collectivités, ou est-ce qu'on reçoit les représentants des collectivités ? Et là, pour le coup, moi, je leur demande pas de travailler avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Ils peuvent choisir les collectivités qu'ils veulent et voir un modèle avec qui ils veulent travailler. Mais pour moi, l'échelon pertinent, c'est les collectivités territoriales.
Alors, les Franciliens attendent avec impatience les nouveaux métros, les nouvelles gares du Grand Paris, ce qui devrait faciliter leur vie quotidienne. Certaines gares ne seront construites qu'en 2030. Donc il faut attendre 13 ans. Vous pensez qu'il faut accélérer les chantiers ? J'ai vu que vous souteniez la ville de Villiers-le-Bel, qui réclame ardemment que la ligne 17 arrive un peu plus vite que prévu à Villiers-le-Bel.
Au moins autant imparti. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des arbitrages. Si on entend ce qui se dit, les arbitrages vont repousser. Alors que la ligne 17, c'était 2024, la promesse qui avait été faite à nos territoires. Et là, pour le coup, vous voyez que je suis même pas dans le dogmatique. Valérie Pécresse et moi, en tout cas, si je peux dire ça comme ça, même si je suis pas son équivalent, on est complètement d'accord sur l'intérêt de la ligne 17. Mais qu'est-ce que c'est que la ligne 17 finalement, ou la ligne 16, ou même la ligne 18? C'est ce qu'on a appelé le transport de banlieue à banlieue. Aujourd'hui, il faut désenclaver nos territoires. Et moi, qui suis un ancien porte-parole des familles et qui a été témoin des pires émeutes qui ont pu avoir lieu, un des problèmes aujourd'hui de nos territoires, ce dont nos territoires souffrent, c'est cette espèce d'enclavement. On est aujourd'hui à Villiers-le-Bel, à 6 km à vol d'oiseau de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy, pour aller dans un bassin d'emploi où 10 000 emplois se créent tous les ans sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Aujourd'hui, pour aller à Charles de Gaulle, alors qu'on a les nuisances aériennes et qu'on est à 6 km à vol d'oiseau, on est obligé d'aller à Paris pour reprendre la ligne B. On a construit des territoires qui étaient des territoires dortoirs.
C'est kafkaïen.
Aujourd'hui, voilà. Et ben vous regardez, quand vous regardez à un moment donné sur un plan de vue emploi, le nombre, le plus d'emplois, le plus d'employés de la plateforme aéroportuaire de Roissy sont sur la ligne B. Ben moi, quand je suis patron et que j'ai envie que mes employés arrivent à l'heure et à peu près dans les bonnes conditions, ben voilà, c'est plus facile aujourd'hui quand on habite sur la ligne B de pouvoir venir sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Donc voilà, donc ça c'est un exemple concret dans lequel nous on veut aujourd'hui rapprocher aujourd'hui les bassins d'emploi, ce qui se fait, et on voit la logique du Grand Paris qui voudrait des fois presque sauter des territoires comme Villers-le-Bel pour aller récupérer la manne financière de Roissy et dire ben restez-vous, continuez à rester dans votre misère. Nous on dit non. Roissy fait partie intégrante de nos territoires, donc nous on veut les transports et on veut pouvoir désenclaver nos territoires et s'accrocher finalement à la locomotive, c'est l'expression, mais à la dynamique économique dans un contexte de raréfaction de l'argent public. Une des solutions pour moi, et c'est pour ça que je m'intéresse au sujet de la ligne 17, à l'urbanisation du triangle de Gonesse, c'est parce qu'on pense aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui faire en sorte d'accrocher ces dynamiques de développement économique.
Alors justement, l'urbanisation du triangle de Gonesse, c'est le projet d'Europa City dans le Val d'Oise.
C'est pas que le triangle de Gonesse, vous savez, l'urbanisation du triangle de Gonesse, le triangle de Gonesse, c'est donc sur le territoire de Gonesse, c'est quasiment un peu plus de 300, c'est quasiment 400 hectares sur 400, pour 300 et quelques hectares sur 400. Le projet Europa City, c'est 80 hectares, donc ça veut dire que sur le reste, il y a encore d'autres projets. Donc il faut, le triangle de Gonesse, c'est vraiment l'idée aujourd'hui de faire venir les dynamiques, ce que je disais tout à l'heure, les dynamiques économiques dans nos territoires, et c'est de faire modestement, mais y compris en travaillant sur les inconvénients, ce que le Stade de France a été à la Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est pas plus.
C'est quoi ce projet d'Europa City?
Pas plus, pas moins. C'est, pour la faire simple, un grand centre culturel et commercial qui n'a pas d'égal aujourd'hui en Europe et voire même dans le monde, où on allierait le loisir et le commerce, pour la faire simple, et notamment le commerce de luxe.
Donc quelque chose qui pourrait ressembler à Euro Disney, mais au niveau français.
Mais différent, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte où les centres commerciaux ne fonctionnent plus, l'offre culturelle aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir toucher les touristes chinois, enfin les différents touristes à l'international, c'est proposer une nouvelle destination de tourisme dans le cadre du Grand Paris et en France. L'ambition, c'est de dépasser même le nombre de visiteurs d'Europa City, puisqu'on est, si ma mémoire est bonne, quasiment à 30 millions de visiteurs en. Donc c'est plus qu'Euro Disney aujourd'hui, qui doit être à 10-15 millions de visiteurs annuels.
Ali Soumaré, vous étiez récemment en Mauritanie, pays africain, un pays arabe également, dont on parle assez peu dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre et dans quel contexte vous avez effectué ce voyage et ce que vous en retenez?
Moi je m'intéresse beaucoup, donc j'aime dire que j'ai deux engagements. Il y a la question des quartiers populaires, et le deuxième engagement que j'ai, je me passionne pour la relation entre la France et l'Afrique, ou l'Afrique et la France. Et je crois que vraiment, et je le disais tout à l'heure, notamment quand je parlais de coopération décentralisée, parce que moi c'est un sujet qui me tient pas à cœur, je crois qu'on doit être fiers d'être français, mais en même temps on doit pouvoir continuer à entretenir nos liens avec ces pays qui ont besoin de nous, mais dont on a besoin. Parce qu'on dit souvent, on conçoit la coopération uniquement dans un sens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous en France, on a des taux de croissance. Des fois, quand on a 0,1% de croissance, on est content. Mais on parle de pays africains aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'ils ont, mais qu'on a des fois des taux de croissance égaux à deux chiffres. Et moi, j'étais très content d'aller en Mauritanie et de voir aujourd'hui que sur la question notamment des énergies renouvelables, il y a des efforts, ou en tout cas, il y a un travail extrêmement important dans lequel non seulement on devrait apprendre qui est fait en Mauritanie. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc pour résumer en tout cas ma pensée et la raison de ma venue, c'est que voilà, je souhaite pouvoir continuer à être ce trait d'union, en tout cas à travailler sur ce trait d'union entre la France et ces pays africains qui sont souvent caricaturés malheureusement, qui ont une histoire particulière et autre et tout. Mais je crois que ce qui est important pour nous, en tout cas français, parce que moi je me situe vraiment en tant que français dans cette histoire-là, avec des origines africaines que je revendique et que j'assume. Et j'ai d'ailleurs souvent une partie de mon engagement, je me rappelle, je paraphrasais souvent Jamel Debbouze en disant, quand on lui disait mais vous êtes français ou africain, je disais mais pourquoi choisir entre son père et sa mère? Et moi je trouve que cette phrase, elle est complètement emblématique. J'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère, et j'ai même la modeste ambition de pouvoir être un trait d'union.
Qu'est-ce que vous avez pensé, Ali Soumaré, de la séquence d'Emmanuel Macron en Afrique? Il a notamment affirmé que les crimes de la colonisation européenne étaient incontestables. Il a annoncé la restitution d'œuvres d'art africaines à l'Afrique. en Algérie. Il a également souhaité une réconciliation des mémoires.
Oui, on peut que souscrire à... On peut que souscrire à ça. D'ailleurs, je pense que le devoir de mémoire, il doit se faire tranquillement, sans chercher forcément un coupable, mais plus en restituant les faits tels qu'ils sont. Et je crois que là-dessus, on peut que lui donner un bon point à Emmanuel Macron. En revanche, moi, j'ai toujours un problème, et ça, c'est du Emmanuel Macron pur jus. Il est capable de dire tout ça, il est capable d'être au Burkina, d'avoir ce ton condescendant, de limite expliquer au président ce qu'il doit faire, en direct devant la télévision, devant les télévisions. Donc, il y a un moment, voilà, il faut arrêter de se donner ce côté. Et c'est souvent d'ailleurs ce que j'entends moi en Afrique, c'est de dire arrêtez les Français avec ce côté donneur de leçons. Regardez-nous d'égal à égal et soyons sur du gagnant-gagnant. Je crois qu'il l'a dit à un moment donné d'ailleurs, la notion de gagnant-gagnant, mais il est capable de dire gagnant-gagnant et en même temps, il est capable de dire au président ce qu'il doit faire, exactement comment il doit le faire. Et c'est ça l'espèce de double personnalité d'Emmanuel Macron que des fois j'ai du mal. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que finalement il ne croyait pas en ce qu'il disait là et il croyait plus en ça ou l'inverse ou finalement il concilie les deux et ça, c'est un peu embêtant.
Ali Soumaré, tout à l'heure, vous avez rappelé que vous avez été le porte-parole des familles durant les émeutes de Villiers-le-Bel. Qu'est-ce que vous pensez de la politique annoncée par Emmanuel Macron en faveur des quartiers populaires ? Le gouvernement parie désormais sur le retour des emplois francs. Et puis, on a rappelé Jean-Louis Borloo pour parler de la rénovation urbaine.
Bon, comment dire c'est... Oui, c'est beaucoup de discours. Mais à la limite, nous aussi, hein, on a eu notre part de beaucoup de discours. Ce que les quartiers attendent aujourd'hui, ce n'est pas des discours techniques, c'est des mesures concrètes. On parlait du Grand Paris aujourd'hui, et ben chiche. Si on veut à un moment donné faire des vraies choses dans les quartiers, sortons de la logique paternaliste, de la logique un peu donneuse de leçons, et faisons ce qu'on a toujours promis, ce que l'État, ce que la puissance publique a toujours promis, à savoir désenclaver ces territoires-là. Je parle à l'échelle de l'Île-de-France, mais on pourrait parler sur le plan national. Donc voilà, faisons. Aujourd'hui, j'en parlais encore ce matin. Là, j'avais une réunion là-dessus où je voyais un certain nombre de chauffeurs VTC de manière générale qui vont très certainement être à la rue dans quelques mois, parce qu'aujourd'hui, la loi Gangriome, aujourd'hui, telle qu'elle a été conçue, avec les conditions d'examen, c'est quand même une usine à gaz, hein, et je le dis, hein, parce que c'est nous aussi qui avons créé un peu cette usine à gaz-là, et ben chiche. Maintenant, arrêtons d'aller chercher, parce que souvent on pense que la question des quartiers elle est uniquement à coût de millions et à mètre, mais il y a de l'existant aujourd'hui. Ce que je parle des VTC aujourd'hui, les accompagner, non seulement ça coûte pas un euro, mais ça nous rapportera de l'argent si on les accompagne en termes de formation, si on réfléchit à un moment donné à sortir de cette usine à gaz. C'est quand même quasiment là, justement, avec le non-accompagnement de cette loi, c'est quasiment, on parle de quasiment plus de 10 000 chauffeurs VTC qui sont principalement issus de nos quartiers populaires qui vont être sur le carreau. Alors on peut faire l'idéologie, expliquer que l'ubérisation, tout ça, c'est pas bien. La résultante, c'est qu'aujourd'hui on a 10 000 jeunes de nos quartiers qui travaillent et qui travaillaient et qui vont peut-être se retrouver dans les prochains mois à la rue. Qu'est-ce qu'on leur dit sans avoir besoin de mettre des millions d'euros? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en matière de transport, en matière de désenclavement? Qu'est-ce qu'on dit dans un contexte de raréfaction de l'argent public en termes de dynamique économique? Comment on accompagne ces vrais projets de développement économique pour qu'ils viennent dans nos territoires, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à relever le défi dans nos quartiers. S'il n'y a plus d'argent, il faut bien aller chercher quelque part, et il faut qu'on puisse accrocher à ces dynamiques-là. Et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ne demandent que ça, s'ils sont accompagnés, s'ils peuvent avoir les infrastructures qui permettent de venir dans nos territoires, d'embaucher, d'accompagner des jeunes, de les former. Et ça, il faut pouvoir... Et puisque finalement, on dit d'Emmanuel Macron que c'est peut-être le plus compatible avec le milieu de l'entreprise, et que nous, on serait has-been à gauche sur ces questions-là, ben chiche. Ayons un vrai discours vis-à-vis de ces quartiers-là et accompagnons-les.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est en train de mettre en place une police du quotidien dans certaines agglomérations, une expérimentation qui sera peut-être généralisée par la suite. Vous êtes favorable à cette police du quotidien qui pourrait favoriser de meilleures relations avec les habitants ?
Moi, vous savez, je suis favorable, pareil, je vous parle à l'échelle de Villiers-le-Bel, je suis favorable déjà au retour, hein, vraiment, et à faire déjà le minimum dans nos quartiers. Aujourd'hui, nous, on a un commissariat à Villiers-le-Bel, je vous invite quand vous voulez, il est fermé la moitié du temps, manque d'effectifs. Voilà, c'est ça la réalité. Et encore une fois, je ne fais pas du dogmatique, je ne suis pas en train de dire Macron, non, il y avait déjà des problèmes d'effectifs sous Hollande, il y avait déjà des problèmes d'effectifs sous Nicolas Sarkozy, donc voilà. Et donc, on est souvent à annoncer des grands plans, là, des plans expérimentaux dans nos territoires. Déjà, Voilà, travaillons sur les conditions de travail des policiers, ayons de quoi ouvrir des commissariats dans des territoires qui sont des territoires qui ont le plus besoin aujourd'hui de la présence de la police et des services publics. Et la réalité aujourd'hui, parce que c'est mon cas d'école et parce que j'y habite et parce que c'est comme ça que c'est à partir de là que mon engagement s'est noué, quand je vois le commissariat qui est juste en face de chez moi à Villiers-le-Bel fermé la moitié du temps, et quand je vois à un moment donné les grands discours qui sont faits sur tout ça, je me dis voilà, arrêtons avec les discours, parce que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, la crise politique qu'on traverse, le fait qu'aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des politiques, les gens nous disent, mais arrêtez avec vos discours, vous nous racontez plein de plans et autres et tout. Enfin, l'expérimentation, on en a fait plein, police de proximité, alors maintenant, aujourd'hui, on appelle ça police du quotidien, oui, bah, police tout court, voilà. Je viens d'inventer la formule avec vous, là.
Merci, Alice Soumaré. Je rappelle que vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.